Le programme que vous allez écouter est l'enregistrement de la conférence intitulée « Peut-on ne pas accueillir toute la misère du monde ?». À cette occasion, les tribunes de l'ULB recevaient François de Smet, docteur en philosophie et directeur du MIRIA, le Centre fédéral Migration.
Merci à l'ULB et aux tribunes de l'ULB pour consacrer une tribune sur ce sujet précis. Au-delà de ma petite personne, c'est surtout évidemment la question actuelle des réfugiés, des migrants, des demandeurs d'asile. On va en parler. Il y a un débat terminologique intéressant à suivre, notamment pour ce qu'il révèle sur ce qu'on postule être les intentions de ces migrants. Thème évidemment fortement d'actualité. A-t-il déjà été davantage d'actualité qu'aujourd'hui ? L'actualité, c'est toujours un prisme déformant. Mais là, réellement, je n'ai pas choisi le titre, mais l'ULB l'a proposé, je l'ai maintenu. Il a quelque chose de provocant et pourtant de très très juste. Je crois qu'il est temps plus que jamais de se demander quelles sont les bonnes raisons pour ne pas accueillir toute la misère du monde. Alors, cette expression a une histoire relativement imprécise selon les sources. Michel Rocard l'aurait dit, mais on n'arrive pas à trouver exactement la séquence vidéo où il l'aurait dit. Il l'aurait dit et il aurait ajouté ensuite... Mais on peut pas accueillir, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit pouvoir en prendre sa part. Bon, au fond, peu importe. L'expression « on ne peut sans doute pas accueillir la misère du monde, mais nous devons en prendre une part » a un réel fondement. Simplement, la question migratoire, aujourd'hui, elle est dominée par le thème très précis de la protection internationale, parce que nous sommes face à ce qu'on peut appeler une crise humanitaire, unique en son genre par son ampleur et sa densité. Mais elle ne doit pas nous empêcher de réfléchir sur toute la migration en général. Et c'est par là que je vais commencer. C'est sans doute le sujet le plus difficile à traiter politiquement. Je le dis parce qu'on va sans doute dire un peu de mal du gouvernement ce soir, légitimement, mais c'est aussi le sujet, il faut le reconnaître, le plus compliqué à traiter. Il a des implications humaines, économiques, sociales, politiques, philosophiques et de représentation. On en dira un mot vers la fin. La question migratoire, c'est un peu le complexe aussi du sédentaire vis-à-vis du nomade. Le nomade, on peut le voir comme l'étranger qui vient profiter d'une série d'acquis, sans qu'on se demande pourquoi nous, on y aurait particulièrement plus droit, mais c'est aussi quelqu'un qui a une forme de courage inouï, celle de laisser tout derrière lui, pour une série de raisons, poussées... au fond, est-ce que c'est vraiment légitime de faire tellement la différence, poussé par la guerre, les risques pour son intégrité physique, ou simplement la faim ou le désœuvrement, qui est aussi un grand moteur de questions de mouvement. Et si on veut démarrer sur une photo, j'espère que vous la voyez de manière assez nette. Vous savez que la question des photos en matière migratoire a cette faculté de tout à coup mobiliser relativement vite une certaine opinion publique. Il y a 2-3 semaines, on a eu droit à la photo de ce petit garçon, le petit Eylan, échoué sur une plage. Un petit garçon de 3 ans qui a fait le tour assez rapidement de la plateforme médiatique et dont on se demande aujourd'hui si ça a provoqué un certain retournement de l'éveil des consciences. Personnellement, je ne crois pas. Je pense qu'on fait jouer à cette photo un rôle qui n'est pas le sien. Ça permet de montrer une série de choses. Ce petit garçon mort, malheureusement, il y en a eu beaucoup, beaucoup d'autres. Rien qu'en 2014-2015. En 2014, il y a eu 3500 personnes mortes, noyées ou disparues en Méditerranée. En 2015, on est déjà à 2500. Ça fait, si vous prenez les 3-4 dernières années, tout simplement, de cette époque, la période la plus meurtrière de l'histoire de la Méditerranée depuis la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ce qui est fou, et ce qui est plutôt un objet de réflexion... sociologique ou philosophique, c'est une sorte d'effet NIMBY inversé, not in my backyard. On constate que les opinions publiques européennes sont divisées. Et il ne faut pas se le cacher, il y a une division assez nette. Vous avez certes des gens qui se mobilisent, qui montent des tentes au parc Maximilien, qui se mobilisent dans les universités, dont c'est effectivement, je crois, également le rôle, et qui le font avec tout leur temps, leur bonne volonté, de manière bénévole. Vous avez aussi beaucoup de gens qui, plus silencieusement, mais ça ressort des sondages d'opinion, ont une vision quand même plutôt apeurée, voire négative, de ce qui se passe. Il y a un sondage qui date du cœur de l'été, un sondage Ipsos sur toute l'Union européenne, qui montre qu'une grosse 60% des Européens pensent que la migration, globalement, est une mauvaise chose. Et la Belgique est tout à fait dans les chiffres, elle était à 60, 63. J'ai l'impression, moi, que il faut voir les choses sur ce tempo aussi. Plus on parle aux gens de choses abstraites et de chiffres, plus il y a quelque chose de relativement effrayant et plus ils sont relativement conservateurs dans leur point de vue. En revanche, dès que vous attirez l'attention sur un cas individuel, comme le cas de ce petit garçon, tout à coup, il y a une prise de conscience parce qu'il y a un phénomène possible d'identification, ce qui est moins possible quand vous êtes simplement confronté à des chiffres. Et cette distance-là entre les chiffres, les statistiques qui ont, je vous en donnerai quelques-uns, mais qui peuvent avoir un pouvoir comme ça, déshumanisant, impossible à appréhender, et la réalité d'être humain auquel vous pouvez tout à coup vous identifier, est une distance comme ça qui a quelque chose d'impossible à diminuer. Dans les 60% et quelques de Belges qui n'aiment pas la migration, moi, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont capables de se mobiliser, comme on le voit de temps en temps dans un journal télévisé, parce que le fils du voisin et sa famille ont reçu un ordre de quitter le territoire, mais eux, on les connaît, ils sont si chouettes, ils sont si bien intégrés, c'est quand même pas juste. Alors on se mobilise sans se dire que sans doute, derrière chaque chiffre qui concerne les étrangers qui sont en séjour illégal, il y a, mis à part quelques cas évidemment, il y a tout de même en majorité, c'est vrai, des hommes, des femmes, des enfants, des familles qui n'aspirent qu'à vivre tranquillement et qu'on trouverait sans doute soi-même relativement bien intégrés. Alors, la photo du petit Thaïlande, ce sera sans doute la photo de 2015. Celle-ci, c'est la photo de 2014, en termes d'impact. On l'a mise en couverture de notre rapport annuel avec l'autorisation du photographe, qui est un Espagnol, José Palazón, et qui est aussi un militant en faveur des droits humains, et qui habite dans l'entité espagnole de Melilla, qui est une des deux enclaves espagnoles se trouvant au Maroc. Moi, j'adore cette photo parce qu'il y a tout dessus. Et c'est très rare. C'est très rare en question migratoire qui, par définition, met en évidence des territoires d'origine, des territoires d'arrivée, des gens entre les deux, l'indifférence des uns, le danger des autres. C'est extrêmement rare d'avoir autant d'éléments réunis sur une photo, puisque là, avant la clôture, à l'avant-plan, sur les terrains de golf, avec les deux jolies jeunes femmes qui font leur swing, vous êtes en Espagne. Vous êtes dans une espèce de relativement... insouciance, en tout cas, elles n'ont pas l'air gênées plus que ça par les grappes de migrants qui, pour le coup, aujourd'hui, dans le cadre actuel, seraient sans doute plutôt considérés, soyons honnêtes, comme des migrants dits économiques, puisqu'ils viennent très probablement d'Afrique de l'Ouest. Ils sont perchés, et vous voyez que perchés sur son échelle, il y a un policier qui essaye de les attraper ou de les obliger à descendre. Voilà une photo qui, moi, me paraît plus frappante que celle du petit Thaïlande, parce que vous avez tout le problème. Vous avez l'Europe, vous avez l'Afrique, sur la même photo, c'est déjà remarquable en soi. Vous avez ces gens qui abandonnent tout et qui se retrouvent coincés au sens propre et au sens figuré, entre deux statuts, entre deux territoires. Et vous avez des Européens qui ne se rendent pas bien compte, à moins d'avoir un peu voyagé dans leur vie, de l'océan, de la bulle de prospérité. Je sais bien que c'est la crise, je sais bien qu'on... On n'est sans doute pas dans un paradis pour tout le monde tout le temps, mais malgré tout, à l'échelle du monde, et c'est toujours ça qu'il faut regarder, nous sommes dans une bulle de prospérité qui nous noie dans une sorte de sentiment d'indifférence duquel nous ne sortons que dans quelques grandes occasions, comme par exemple une crise humanitaire mondiale, ce qui est le cas aujourd'hui. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais je dois juste, avant de démarrer dans une réflexion peut-être un peu plus général, parce que vous avez, j'imagine, d'autres occasions de parler de l'actualité, donc j'aimerais ce soir essayer qu'on arrive à se focaliser sur les principaux enjeux de la migration et ce qu'il y a derrière, dans nos représentations, dans notre manière de penser, dans notre manière de voir les choses, mais c'est quand même difficile, vu l'actualité, de ne pas reparler de quelques faits. Une actualité qui bouge de jour en jour. Donc d'un jour à l'autre, elle devient extrêmement difficile à appréhender. Là, avant de venir ici, j'entendais les dernières mesures prises par le gouvernement qui donc renforce la dureté du contrôle du regroupement familial. Il sera un peu plus difficile d'exercer ce droit. Il sera un peu plus facile, par contre, on sent une sorte de savant équilibre, de travailler alors qu'on est demandeur d'asile. C'était 6 mois, ça c'est en train de passer à 4 mois. Voilà, je regarde Andrea parce que j'en toucherai peut-être un mot, mais il a réalisé avec en coordination avec le centre et d'autres acteurs, une étude qui s'appelle Careers et qui suit tous les demandeurs d'asile qui ont introduit une demande dans le pays sur une période déterminée et qui montre leur trajet socio-économique et qui montre qu'effectivement, on a tout intérêt à investir dans ces gens en matière de formation et de travail le plus tôt possible si on veut simplement, tant pour eux que pour la société, ils contribuent à la société et à son économie de manière décisive. Il y a une actualité européenne qui est complètement folle, puisque nous avons des remises en cause de l'espace Schengen, qui, selon certains experts, peuvent être qualifiées d'illégales, puisque vous pouvez certes, d'après le traité de Schengen, remettre des contrôles à vos frontières pendant 30 jours en cas de menace grave pour l'ordre public, mais le traité sort explicitement les mouvements migratoires comme rentrant dans la définition de l'ordre public. Donc, non seulement la Hongrie, mais qui, elle, écrase tout sur son passage du point de vue des infractions puisqu'elle ferme complètement sa frontière, mais également même l'Allemagne et les quelques pays de l'Est qui la suivent, qui font des contrôles pour l'instant pour cette raison-là, leurs frontières sont normalement en infraction. Pendant ce temps-là, l'Europe est arrivée à un accord relativement laborieux sur la création de hotspots appelés à être situés en Italie et en Grèce, où, si j'ai bien compris, des gens vont être détenus avant d'être redistribués dans le reste de l'Union, et à boire ou à manger là-dedans, parce qu'on y viendra sans doute une partie de la solution, à l'évidence, vient dans une meilleure répartition des demandeurs d'asile au sein des pays. La question est de l'enfermement et du fait de ne faire ça qu'une fois que ces gens ont pris tous les risques pour arriver ici est une autre question. Un petit mot sur la différence entre migrants, réfugiés, demandeurs d'asile, juste pour être au clair sur ce dont on parle. Les gens qui sont au parc Maximilien aujourd'hui et qui attendent et qui ont un courrier de l'Office des étrangers pour venir dans 3, 4, 10 jours sont des demandeurs d'asile. Ce sont donc des gens qui prétendent, estiment, viennent d'un pays réputé en guerre ou dans lequel ils ont des raisons objectives de craindre pour leur sécurité, pour une série de critères, et qui demandent à un État contractant en général à la Convention de Genève de le reconnaître comme réfugié. Donc vous n'êtes pas réfugié comme ça, vous devez être reconnu comme tel par un État, une institution ou les Nations Unies qui vous reconnaissent ce statut. Tant que vous n'avez pas cette reconnaissance-là, techniquement, vous n'êtes pas un réfugié, vous êtes un demandeur d'asile. Généralement, on peut, et ce n'est pas le cas de toutes les crises migratoires et de l'asile, mais enfin, quand on voit les nationalités des populations qui sont enregistré par le Commissariat général aux réfugiés, aux apatrides en 2015 et en 2014, vous avez grosso modo des Irakiens, des Syriens, des Somaliens, des Érythréens, des Afghans, bon, grosso modo quand même des gens qui ont des raisons relativement objectives et bonnes de prétendre que leur dossier doit être examiné selon les conventions de Genève. On a une année 2015 qui avait commencé doucement avec environ 1300 demandes, et nous avons une vraie accélération depuis juillet-août avec environ 5000 demandes par mois. Ce sera sans doute le cas, même plus ici en septembre. Là, il faut dire un mot du contexte. En 2012 et en 2013, les demandes d'asile avaient diminué en Belgique et il y avait une hausse très mesurée de 8% en 2014. C'est pendant ce temps-là que la Belgique a fermé des places d'accueil. Les deux gouvernements précédents ont fermé ensemble 6500 places. Donc on parle de ces mêmes places qui sont obligées de réouvrir comme à toute vitesse. Fedasil est en train de créer 1000 places par semaine. Là, la critique qu'on pourrait formuler à l'égard du gouvernement concerne l'accueil. C'est-à-dire qu'on a, on a certainement eu la main un peu lourde parce que pendant que les demandes d'asile remontaient quelque peu en 2014, surtout elles explosaient dans le reste de l'Europe. On était à un plus 40 dans l'ensemble de l'Union européenne. Et donc, en 2014, les demandes explosaient à peu près partout autour de nous, sauf chez nous, et pour des tas de raisons qu'on peut examiner ensemble. Mais grosso modo, la Belgique a fait comme si ça allait continuer, que les flux migratoires d'asile allaient continuer à passer autour, un peu comme le nuage de Tchernobyl dans les années 80. Et donc, on a continué à fermer des places. Et là, la réalité s'est réinvitée un peu brutalement. Il faut dire deux choses. Au niveau de la Belgique, ce n'est pas tellement une première. Il y a déjà eu davantage de demandeurs d'asile qu'aujourd'hui. En l'an 2000, après la crise des Balkans, sur l'ensemble de l'année, on a eu 42 000 demandeurs d'asile. On est pour l'instant à 20 000. Il n'est pas exclu qu'on arrive à 40 000 ou qu'on dépasse d'ici la fin de l'année, mais il y a déjà eu plus de demandes d'asile en Belgique. Par contre, au niveau du monde, on est vraiment dans une crise extrêmement importante, puisque les Nations Unies, le HCR, considèrent que vous avez 59 millions et demi de personnes déplacées dans le monde. Attention, tous ces gens-là ne sont pas des réfugiés ou des demandeurs d'asile. Ça concerne aussi des gens qui sont déplacés de force dans leur propre pays. Mais toujours est-il que, à l'échelle du globe, il y a un nombre assez réduit de ces gens qui arrivent jusqu'en Europe ou qui ont vocation à y être. On considère que fin 2014, il y a environ entre 5 et 600 000 demandeurs d'asile confondus, ce qui fait à l'échelle d'un continent de 500 millions de personnes une demande d'asile pour 1000 habitants. Alors c'est vrai que ça varie selon les pays. En Belgique, on est plutôt à 2 pour 1000. En Suède, qui accueille beaucoup de gens par rapport à sa population, on est plutôt à du 19 pour 1000. Enfin, 1 pour 1000 à l'échelle de l'Union européenne. On comprend quand même bien que c'est pas cette échelle-là qui va bouleverser la donne sociologique ou démographique du continent. C'est important à dire parce que quand vous prenez des chiffres, les chiffres en tant que tels, vous pouvez leur faire dire n'importe quoi, comme disait Michel Dardenne. Mais ce qui est intéressant, c'est de les comparer. Vous pouvez faire croire à n'importe quoi avec des mouvements de foule. Je peux vous faire croire à une guerre civile si vous me donnez 50 personnes et une petite caméra. Mais si vous regardez l'ensemble des chiffres, que vous comparez le nombre de demandes d'asile à la capacité européenne d'y faire face, on est dans une crise, certes mondiale, puisque ce chiffre de 59 millions n'avait jamais été aussi haut depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc on est objectivement dans quelque chose de grave et d'important. Mais on a une Europe qui a tout à fait les moyens d'y faire face. Encore une chose sur le volet chiffres. À côté de tout ça, vous avez ce qu'on appelle une migration légale, qui avait plutôt tendance à baisser. Donc les gens qui... Attention, les demandes d'asile sont comprises évidemment dans la migration légale. Simplement, elle n'est absolument pas le premier motif. Si vous prenez... on a eu les chiffres pour 2014 il y a peu de temps, donc on sait que c'est 128 000 personnes. Les motifs prépondérants sont généralement liés à la famille. Si vous prenez temps, la migration est une question complexe. Pour mesurer les motifs de migration, on a d'une part les visas et d'autre part les premiers motifs de séjour. Dans les deux cas, il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que ce sont les motifs liés à la famille, et donc leur groupement familial, qui arrivent en tête des motifs légaux de migration suivis par les études et le travail. En général, n'arrivent les raisons liées à l'asile que bien après. Même si, évidemment, il faut tout nuancer. On ne prend en compte dans un premier temps que les gens qui sont en séjour légal, soit au niveau de leur demande, soit au niveau de leur reconnaissance comme réfugiés. Donc une fois que vous n'êtes plus dans le circuit et que votre demande d'asile n'a pas été reçue, par exemple, évidemment, vous sortez des chiffres de la migration légale, c'est comme avec le chômage, il y a donc plusieurs niveaux de réalité. Encore une chose, en parlant des réfugiés, là où il y a une vraie inquiétude du gouvernement et des autorités régionales, c'est que contrairement à l'an 2000, où nous avions des gens des Balkans, et que les niveaux de reconnaissance de réfugiés n'étaient pas spectaculairement hauts, on s'attend ici à avoir beaucoup plus de reconnaissance. On estime qu'un Syrien, par exemple, qui a introduit sa demande d'asile ici, a 9 chances sur 10 d'être reconnu réfugié. Ce qui, du coup, est en train de provoquer beaucoup de débats en termes d'intégration, parcours obligatoire d'intégration, oui, non, comment, parce qu'on se dit, ben voilà, on va se retrouver quand même avec beaucoup de gens qui vont avoir, plus que la dernière fois, un titre de séjour légal pour rester ici. Rappelons sur la migration légale dans son ensemble que si on prend le critère de la nationalité, elle est à plus de 60% européenne. Au fond, les migrants, c'est ça. C'est l'ensemble des gens qui évoluent d'un territoire à un autre pour s'y installer d'une manière relativement durable. Le premier étudiant français venu est un migrant, évidemment. Voilà pour les différences entre les mots et ces quelques chiffres. Alors... ça, je crois vous l'avoir déjà dit. Bien sûr que la migration est le sujet prépondérant de notre époque. Il pose problème, et il est sans doute le sujet rêvé, et pour s'enguirlander à table en famille, et pour se faire des ennemis en politique, et pour beaucoup de ces choses-là, parce qu'il oppose des principes qui sont très largement partagés, mais qui sont en contradiction. Il oppose le droit des êtres humains à se mouvoir sur la planète, qui est consacré par une série de normes, et le droit des États à fermer leurs frontières et de ne pas accepter tout le monde et n'importe qui, à quelques exceptions près. Évidemment, d'un point de vue sociologique et sur un plan historique très très large, tous les êtres humains sont des migrants d'une manière ou d'une autre. Vous savez tous que nous venons, grosso modo, d'Afrique de l'Est. Nous avons essaimé dans le monde entier et que les êtres humains se sont sédentarisés relativement tard, géologiquement parlant, bien entendu, à partir du développement de l'agriculture et de l'élevage. Et qu'ils ont assez rapidement commencé à... Mais pas partout de la même manière. C'est un sujet intéressant. Tous les êtres humains, toutes les peuplades dans le monde n'ont pas la même définition de ce qu'est un territoire, de ce qu'est sont des frontières, ce sont des barrières, ce qui, dans les relations coloniales, évidemment, ont joué beaucoup. Ce sont les Européens qui ont imposé au reste du monde ce qu'était un territoire, ce qu'était un État, ce qu'était une frontière. Il y a des territoires entiers où ces notions n'existaient même pas. Et donc, nous sommes, a priori, des nomades qui nous sommes sédentarisés de manière assez, assez récente. Et donc ça, c'est en gros ce qu'on va voir dans ce qui nous reste de temps. On a donc un vrai malaise à appréhender la migration, parce que je crois que ça nous rappelle notre passé de nomade, parce que forcément, les gens qui sont arrivés moins récemment que d'autres ont un sentiment de propriété d'un territoire et donc de choses qu'ils n'ont pas envie d'abandonner. Et on terminera par ça. Il y a aussi le fait que se développe sur un territoire, à très long terme, des sentiments d'appartenance, d'identité, une langue, une culture, des sentiments de nation. Et que, et je crois que c'est une grande cause des fameux 60% d'Européens, ou de Belges en l'occurrence, qui voient la migration d'un mauvais œil, je crois que c'est surtout ça les peurs. C'est une peur de la dilution d'identité. C'est la peur que de trop gros contingentements de gens ne fassent par leur masse bouleverser les habitudes, le mode de vie, la langue, la religion, que sais-je. Je pense que c'est vraiment ça. C'est une peur qui peut paraître irraisonnée quand vous voyez les chiffres, mais qu'il faut malgré tout prendre au sérieux. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas irraisonnée qu'elle n'existe pas et qu'elle n'a pas des conséquences, par exemple politiques, par exemple électorales. Donc il faut pouvoir la prendre au sérieux, cette peur de la dilution identitaire. Elle a quelque chose de vain, évidemment, parce qu'elle oublie un constant philosophique connu, qui est qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, comme disait Héraclite, c'est-à-dire que tout est changement. Puisque nous dit Héraclite, bah voilà, même si tu penses que tu te baignes dans le même fleuve, c'est pas la même eau. Et le défi philosophique, il est là, c'est que nous croyons que nous avons une langue, une couleur de peau, et tout ça est homogène, et que tout ça est d'une quelconque éternité. Rien n'est plus faux. La couleur de peau qui est la mienne peut-être n'existera plus dans 1000 ans, peut-être qu'il y aura des couleurs de peau qu'on n'imagine pas. Le français que je parle n'était pas le même il y a quelques centaines d'années, ne sera plus le même dans quelques centaines d'années, mais nous, comme nous arrivons avec des petites vies relativement courtes, nous nous attachons à des éléments qui sont en fait eux-mêmes de passage, les nations, les religions, les identités, tout ce que vous voulez, et nous, parce que nous avons peur de la finitude, c'est le philosophe de seconde qui parle, ben nous nous y attachons de manière complètement trop forte et sans doute beaucoup trop forte. Alors, encore un philosophe, un vrai, celui-là, Emmanuel Kant, Vers la paix perpétuelle en 1795, il n'y a pas énormément de philosophes pur sucre qui sont interrogés sur la question migratoire, et travaille sur le droit cosmopolitique, qui comprend un certain nombre de dispositions que je vous épargne, mais qui en comprend une majeur, qui est le droit de tout étranger de ne pas être traité en ennemi dans le pays où il se rend. Kant était en faveur de ce qu'on appellerait aujourd'hui au plan européen une liberté de circulation totale. Pas forcément d'établissement, parce que Kant se disait, c'est pas pour autant qu'on peut sans condition autoriser tout le monde à s'établir n'importe où, quelque part, parce qu'alors on a possibilité de déséquilibre. Mais il est vrai qu'il y a quelque chose en nous, dans les pays sédentaires, de ce côté droit d'antériorité inné. Si vous prenez des enfants qui vont jouer sur une plaine de jeu, il y en a un qui s'empare de la balançoire et le deuxième arrive, le premier, pour ne pas partir, va sortir immanquablement quelque chose du style « j'étais là le premier ». Et quand on y pense, quel drôle d'argument. Et quand on y pense, qu'il est curieux que nous, comme adultes, on ne trouve pas finalement beaucoup mieux. Parce que la plupart de nos questions migratoires peuvent être lues à l'aune de cela. Et on peut interroger la légitimité de ce sentiment d'antériorité sans forcément en tirer des conclusions marxistes d'expropriation de la propriété générale. Non, il y a vraiment quelque chose là-dedans de profond, c'est-à-dire que l'endroit où nous naissons, les privilèges que nous avons, nous paraissent quelque part d'emblée acquis. Et il faut faire un effort pour sortir de l'idée que peut-être que le voisin pourrait y avoir droit de la même manière, ou en tout cas qu'on pourrait ne pas forcément lui faire des croche-pieds quand il essaye de grappiller quelques miettes. Il y a tout de même un article dans la Déclaration universelle des droits de l'homme qui consacre théoriquement ce droit de pouvoir voyager librement, et c'est ce droit-là qui est mis en face à face, surtout depuis le 20e et le 21e siècle, avec le droit des États de contrôler qui vient sur leur territoire. Et c'est ça le paradoxe du XXe siècle. On est à la fois le plus grand siècle de migration, enfin, vous me direz forcément, puisque en termes de masse, il n'y a jamais eu autant d'êtres humains vivants également qu'au XXe siècle, mais soit, il y a aussi l'amplification des transports de masse. Et c'est aussi le siècle qui a vu la victoire, vous me direz qu'elle s'annonçait depuis le XIXe, tout de même, mais quand même, de l'État-nation. Et donc, à la fois, et forcément, il fallait bien que ça ne pouvait pas... ça ne peut pas se conjuguer pacifiquement éternellement. On fait à la fois la gloire de la liberté des hommes à se déplacer et la gloire des États à exister et à incarner des identités extrêmement fortes. En même temps, depuis la Seconde Guerre mondiale, on a des tentatives régionales, qui sont donc là très méchamment à l'épreuve, de lever des frontières sur un plan intérieur. Je pense évidemment à l'Union européenne, qui s'est quand même construite d'abord sur une belle idée qui est plus jamais ça, plus jamais de guerre entre nous, et donc pour être sûr de ne plus faire la guerre entre nous, commençons par commercer ensemble. On va d'abord faire le charbon, puis on va faire l'acier, puis on va faire l'atome, puis on va faire un peu tout le reste, et puis ça va être génial, on va lever toutes les frontières et ça va marcher. On est un peu là dans une sorte de panne du projet européen, mais il y a quelque chose de quand même réussi, qui est que le simple fait de rétablir des contrôles aux frontières doit, à mon avis, paraître pour des jeunes qui ont 18-20 ans aujourd'hui, qui n'ont jamais connu ce que moi j'ai encore connu, à savoir que même pour aller à Paris, vous faisiez à un moment, vous arrêtiez une frontière, vous deviez attendre, vous étiez dans une file quoi, de bagnoles qui passaient parce que la douane contrôlait une fois de temps en temps. Donc c'est fou, c'est un autre monde, et ce retour en arrière qu'on a, où la construction européenne autour de Schengen est vraiment mise à l'épreuve des flux migratoires en montrant son incapacité de gérer le problème de manière commune, est tout de même préoccupant. Attention, puisque rien n'est simple dans ce dossier, n'enterrons pas tout de suite non plus la question de frontières. Régis Debray, qui n'est pas exactement un néolibéral conservateur, c'est un ancien compagnon du Che, a fait un petit bouquin qui s'appelle « Éloge des frontières », et où il expliquait que même dans la dialectique très à gauche, ce qui sépare le renard libre des poules libres, c'est aussi une frontière. La frontière peut aussi protéger. Et il n'est pas sûr... Il y a un grand débat, est-ce qu'on ne pourrait pas tout résoudre en ouvrant toutes les frontières et puis on n'en parle plus? François Gemène, un très brillant démographe, défend parfois cette idée. Bah oui, sur le fond, on peut être évidemment tout à fait d'accord, et moi aussi je rêverais d'un monde où les frontières, comme beaucoup d'autres concepts, seraient superflues. Mais si vous les levez d'un seul coup, vous favorisez forcément ceux qui ont les meilleurs moyens, ceux qui ont le plus d'argent, ceux qui ont le plus de possibilités pour s'affranchir de ces frontières et par exemple s'établir ailleurs. Il n'est pas certain que lever toutes les frontières, en tout cas autrement que dans un projet, par exemple, européen, coordonné, progressif, soit forcément juste, socialement ou philosophiquement. Et puis, il y a le poids des images, je crois comme toute personne qui a un peu voyagé, notamment en Afrique de l'Ouest ou partout ailleurs dans le monde. Il faut s'imaginer qu'on est entré dans un monde où non seulement il est plus facile de voyager, attention, pas tous de la même manière. Vous et moi, on a probablement des passeports qui nous permettent de jouer les touristes ou même de s'établir, pas toujours facilement, mais enfin, en gros, le monde est une grande plaine de jeu où on peut aller se promener. Quand même, la plupart des habitants du monde n'ont pas ce luxe-là. Ils ont un passeport, soit ils n'ont pas de passeport du tout, soit ils ne peuvent pas bouger très très loin. Donc là encore, c'est un luxe que nous ne mesurons pas. Par contre, beaucoup de cette population reçoivent nos images. Donc reçoivent des images de fiction ou d'informations de la vie telle qu'elle se déroule ici ou dans d'autres régions du monde. Je ne suis pas sûr qu'à leur place, je n'aurais pas aussi envie d'aller voir de l'autre côté de l'écran comment ça se passe. La question de l'asile dont on parle, parce qu'elle est... Donc c'est l'actualité criante du moment. Il n'y a jamais, je vous l'ai dit, autant de personnes déplacées de force dans le monde. Il faut aussi voir qu'elle a été aussi utilisée, oserais-je dire, d'une manière un peu utilitaire. On sent de plus en plus de discours aujourd'hui, et maintenant il est carrément exprimé d'une manière très cash par une série de responsables politiques. À savoir, d'accord, acceptons ces gens qui viennent d'Irak, de Syrie, ou d'ailleurs, enfin, il faut quand même bien faire la différence entre les vrais, c'est la thématique du vrai, parfois avant c'était le bon, maintenant c'est le vrai réfugié, celui qui vient vraiment d'un pays en guerre. Et d'ailleurs, on va faire une liste de pays sûrs, donc s'ils viennent de ces pays-là, on examinera beaucoup plus vite, parce qu'on ne peut pas ne pas l'examiner. Hein. La Convention de Genève ne l'autorise pas, mais on examinera de manière beaucoup plus vite leurs demandes. Ça existe aussi en Belgique, cette liste de pays sûrs. Et on va les différencier des autres, les méchants migrants économiques qui ne sont pas en danger pour leur vie dans leur pays, qui ne sont pas persécutés par un gouvernement ou par l'État islamique ou par Bachar el-Assad et qui, donc, quelque part, sont des imposteurs qui tentent d'aller dans ces trous. Il est intéressant de noter que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, vous aviez le droit des gens simplement qui régissaient cette matière. C'est après la guerre qu'on s'est quand même dit qu'il faudrait créer un statut d'être humain juridique qui résiste à la souveraineté des États, qui était tout de même le principe prépondérant depuis longtemps, et qui autorise un individu à, même en contravention de la souveraineté d'un État, arriver jusqu'à son territoire et à dire « Time, moi je demande une forme de protection internationale ». Et ça a assez bien marché. On était assez contents d'accueillir, par exemple, les Hongrois en 1956, lorsqu'ils étaient réprimés par le régime soviétique. On était aussi on trouvait assez aussi normal d'accueillir les boat people vietnamiens ou les exilés de gauche qui fuyaient Pinochet, ou encore les réfugiés des pays des Balkans dans le flux des années 90. Mais cette division sur la motivation, où d'une part vous avez l'asile qui est, c'est vrai, un droit, et les autres motifs de migration qui restent, du point de vue des États concernés, des faveurs. Donc, si Théo Franken ouvre beaucoup de place, et si le CGRA examine des demandes aujourd'hui, c'est parce qu'on est obligé de le faire. Et que c'est pour ça que la discussion, notamment avec les interventions de Bart De Wever depuis quelques jours, s'axe sur la Convention de Genève elle-même. Vous êtes obligé d'examiner la demande de quelqu'un qui vous dit « je veux bénéficier des critères de l'asile ». Pour toutes les autres formes de migration, les États ont des facultés beaucoup plus larges de dire qui peut et qui ne peut pas entrer sur son territoire. Et pendant longtemps, pendant les Trente Glorieuses, les États d'Europe occidentale ne se sont pas privés, et d'une part, d'accueillir les demandeurs d'asile qui en avaient besoin et qui étaient, c'est vrai, beaucoup moins nombreux qu'aujourd'hui, mais également d'organiser une migration économique. C'est les fameuses conventions bilatérales, tout le monde connaît ça, qui ont été organisées entre la Belgique, d'une part, par exemple, et l'Italie, la Turquie, la Grèce, le Maroc, une série de pays. Ces conventions ont fait venir des travailleurs et ensuite leurs familles ici pour déjà faire les travaux dont les Belges ne voulaient pas, ou simplement ils n'étaient pas assez nombreux pour les accomplir, dans les mines, dans la sidérurgie et ailleurs. Cela a été arrêté en 1974 avec la crise pétrolière, enfin la fameuse crise dont, auquel paraît-il, nous sommes toujours finalement. Et qui a aussi servi de stop migratoire à la migration de travail. Certes, il est toujours possible de migrer pour des raisons de travail, mais c'est beaucoup plus compliqué. En gros, si vous n'êtes pas architecte indien, investisseur américain, vous n'avez pas énormément de chances d'obtenir votre visa de travail, même si le principe existe. Et donc, ce que je veux dire, c'est que cette application du critère de l'asile au flux migratoire qui vient et qui sert aujourd'hui dans le discours politique à destination d'opinion publique, évidemment, à classer les flux migratoires entre les gentils, les justes et les autres, eh ben, on pourrait légitimement l'interroger. Bien sûr qu'il est fondé juridiquement, il n'y a pas de doute. Il y a une convention de Genève qui explique bien que c'est une mise en danger, pas forcément seulement en temps de guerre d'ailleurs, mais une mise en danger de votre intégrité pour une série de raisons déterminées qui fondent votre droit à être là. Mais quand même, et je pense moi que, au-delà de la crise de l'asile que nous vivons, mais qui aura une fin, qui ne verra pas du tout la fin de la question migratoire en tant que telle, on est en droit de se poser la question, moralement, philosophiquement, qu'est-ce qui fait que, si je viens d'une dictature riche pour mes opinions, j'aurai un droit finalement davantage et meilleur à être accepté ici que si je viens d'une démocratie extrêmement pauvre et que je veux simplement avoir une chance de faire quelque chose de ma vie. C'est difficile à poser comme débat parce que Sur le plan politique, c'est relativement suicidaire, puisque l'idée de dire on va accepter la migration juste concentrée sur l'asile, ça revient aussi à dire, souffler à l'oreille de l'électeur un petit peu subliminalement, ne vous en faites pas, ils ne seront pas tellement nombreux. Parce que, effectivement, l'opinion publique va se représenter facilement que si on trie la migration sur le critère de l'asile, ça ne fera pas trop de monde. Bah, si on la trie sur le critère qui a juste envie d'être là pour réussir sa vie, ça va évidemment faire beaucoup de monde. Donc ça ouvre la question d'une voie migratoire légitime qui n'existe peut-être pas encore. Là, je viens d'en parler et le temps court, donc je vais aller vite. Il y a différents types de cases de migration possibles en dehors de l'asile. Aucune d'entre elles n'est vraiment évidente, que ce soit la migration de travail, que ce soit la migration étudiante, même si beaucoup de progrès ont été faits. La migration de mariage et de regroupement familial. Ça, c'est un sujet fascinant qui mériterait juste en soi une conférence, parce que moi j'ai une thèse personnelle qui est que l'office d'étrangers a une vision relativement romantique des choses. Je m'explique. Il y a énormément de dossiers dans lesquels, alors, vous avez le groupement familial classique, et puis vous avez un grand nombre d'autochtones, de Belges ici, de Français, peu importe, qui, d'une manière ou d'une autre, vont se chercher un conjoint dans un autre pays. Il y a régulièrement une grande différence d'âge entre les personnes. Ça peut être la femme d'un certain âge qui revient avec un Sénégalais, ou le monsieur qui revient avec une jeune Russe ou une jeune Philippine. Bon, ce sont des cas assez connus. Et l'office des étrangers, généralement, ainsi que l'état civil et les différentes instances qui vérifient la véracité de ces choses-là, enquêtent sur la réalité des liens. Donc il faut... J'ai travaillé une première fois au Centre pour l'égalité des chances à l'époque, et j'ai accueilli des dossiers individuels de ce genre-là. L'office étranger demande des preuves d'amour, si vous voulez, des lettres, des échanges, des emails, etc. Avec des cas, mais qui interrogent aussi la réalité de ce qu'on considère être une union. J'ai une dame une dame de 73 ans au téléphone qui ne comprenait pas pourquoi l'officier de l'état civil de sa commune et l'office étranger derrière refusaient d'accorder le visa de son compagnon marocain de 23 ans. Elle était extrêmement sincère et elle n'était pas du tout naïve. Il y avait dans son discours quelque chose de très clair, du style « Je sais très bien ce que ce jeune homme peut m'apporter et ce qu'il ne va pas m'apporter. Moi, ce que j'attends, c'est une présence, c'est quelque chose. » Et sans doute, est-ce une sorte, évidemment, d'échange ? Il ne faut pas être naïf. La question étant, est-ce que toute relation sentimentale, quelle qu'elle soit, se conçoit-elle parce que les deux personnes, j'ai l'air de m'égarer, je sais, parce que les deux personnes sont supposées apporter la même chose ? Non, ça ne marche jamais comme ça. Vous n'apportez jamais dans aucune relation la même chose que l'autre. Si vous croyez que c'est ça, en général, c'est parce que vous êtes encore dans l'hypothèse romantique des âmes sœurs, etc. Mais la plupart du temps, ce n'est pas comme ça que ça marche. J'apporte ceci, tu apportes cela. Et toutes les unions du monde fonctionnent d'une manière ou d'une autre de cette manière-là. Et donc, la vraie question, ce qui est vraiment injuste dans l'histoire, c'est qu'une jeune et jolie Philippine de 19 ans aura de meilleures chances d'émigrer ici que son compatriote ingénieur de 45 ans. Ça, c'est l'injustice migratoire. Et donc, mais que font les gens ? Ils essayent d'aller dans les cases qui correspondent aux cases que nous avons créées. Donc, soit parce qu'ils répondent vraiment à ces cases, et tant mieux, ils voient leur dossier examiné, soit ils font semblant d'être demandeurs d'asile, semblant d'être un amoureux transi, des mariages blancs, gris. Gris, c'est quand... Il y en a un seul des deux qui serait amoureux et pas l'autre. Enfin bon, comme je viens de vous le dire, je suis assez sceptique philosophiquement sur cette définition, puisque ce genre d'histoire, toute l'histoire normale est de façon le fruit d'un grand malentendu. Alors, les cases disponibles, bref, elles ne répondent pas aux motivations des migrants. Et donc, la question qu'on a à se poser, ce qui me fait arriver, je vous rassure, dans 5 minutes, lentement vers la fin, est-ce qu'il ne manque pas une... Sans mauvais jeu de mots, est-ce qu'il ne manque pas une case migratoire d'arrivée, d'entrée, beaucoup plus élaborée et plus franche sur la migration de travail ? Elle est d'autant plus intéressante à poser maintenant que parmi les forces vives, par exemple les universités, on parlait des bourses il y a un instant, mais les forces vives en général, qui s'inquiètent de la manière dont on peut aider les demandeurs d'asile ou les futurs réfugiés, il y a le monde de l'entreprise, qui n'habitue pas, c'est vrai, à chaque fois... a développé une philanthropie sur les sujets de société, mais qui s'est mobilisée. Moi, j'étais invité à une table ronde de l'AFEB, où tout le secteur était là. Et il y a sans doute évidemment toujours des arrière-pensées, mais il y a une vraie sincérité, on se comprit, on va être défait d'asile, on va trouver un hangar pour mettre des... Il y avait vraiment quelque chose, même s'ils y voient sans doute aussi une force de travail. Les Allemands et leurs 800 000 demande d'asile, c'est pas juste de la philanthropie, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont une démographie en baisse et qu'il s'agit d'une main-d'œuvre qui peut les aider. La question est, pourquoi attendre simplement des crises d'asile pour se poser la question migratoire ? Parce que c'est un débat politiquement très difficile à poser. Vous essayez à droite, vous tombez sur un électorat qui en général a une peur irrationnelle de l'étranger. Vous essayez à gauche, c'est pas évident non plus, parce que vous arrivez très vite, notamment du côté syndical, sur des questionnements sur, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette concurrence organisée depuis l'extérieur ? En général, on aime bien les étrangers une fois qu'ils sont arrivés ici. Mais quand ils sont encore là-bas, comme demandeurs de travail, c'est moins évident. Donc essayez de lancer le sujet, vous verrez, il n'y a pas un espace politique extrêmement large pour poser la question d'une migration de travail. Ça ne concerne pas que l'Europe, c'est toute l'Europe, que la Belgique, c'est toute l'Europe qui est un peu dans une impasse, à tel point que l'Europe a essayé quand même deux, trois trucs. Elle essaye une carte bleue, une sorte de carte verte européenne pour attirer les hauts niveaux ici, pour raviver le potentiel intellectuel de l'Union européenne. C'est un flop complet. La première année, vous aviez, je crois de mémoire, 5 cartes. La deuxième année, 9. Là, on était à 13. Je rappelle qu'on est 500 millions d'Européens. Donc, c'est quand même pas un succès extraordinaire. Même les hauts niveaux, on n'arrive pas à les attirer de manière relativement claire. Je n'ai pas le temps matériel, mais on pourrait y revenir dans les questions, de vous parler des régularisations et des expulsions. C'est tout un truc assez intéressant. Je veux quand même dire un mot sur les centres fermés, parce qu'ils sont symptomatiques de quelque chose. Donc, dans notre mandat, on fait partie des seules organisations qui pouvons les visiter. Et quand moi j'y suis allé, c'est quand même quelque chose de très frappant. C'est le côté, c'était il y a plusieurs années la dernière fois, le côté préfabriqué permanent. C'est-à-dire le premier centre fermé a existé avant la réglementation qui explique comment un centre fermé doit exister. C'est toujours comme ça, c'est fait à rebours. Le premier centre fermé, le Poétique 127, a été ouvert en 88, quand la Belgique a repris sa délégation de compétences du HCR. Évidemment, ce sont des structures de nature carcérale. On enferme des gens dans l'idée, ça concerne à peu près il y a 10 000 départs par an au départ de ces centres, mais certains sont volontaires. Donc je n'ai pas en tête le nombre exact d'expulsions. Mais en gros, il s'agit d'expulser soit des gens qui arrivent ici et qui n'ont pas le titre de séjour requis. C'est-à-dire qu'un visa n'est pas un titre de séjour. Un visa est une autorisation à vous présenter à la frontière. Ça nous concerne nous aussi quand on va à l'étranger. Un pays peut tout à fait vous refuser l'accès alors que vous avez un visa. Je termine la parenthèse. Ou ce sont des gens qui sont en séjour irrégulier et sur lesquels on tombe de manière relativement accidentelle. Ce qui m'intéresse dans la question des centres fermés, outre le fait qu'évidemment il est plus compliqué d'y respecter des droits fondamentaux qu'ailleurs, puisque ce sont des structures carcérales, c'est le fait qu'elle correspond pour moi à ce que, en sociologie, je crois, mon cher Andrea, on nomme un double bind, c'est-à-dire un raisonnement paradoxal et contradictoire. Les centres fermés renvoient, sont relativement peu efficaces, dit cyniquement, par rapport à leurs fonctions réelles. Si on devait vraiment enfermer tous les étrangers en séjour irrégulier dans ce pays et les expulser, on ne ferait que ça et on se transformerait en pays totalitaire. C'est-à-dire qu'on raflerait les gens, on sait à peu près où ils sont, en général, même les gens qui sont dans une demande de régularisation doivent introduire une adresse. Techniquement, ce serait possible, mais on ne le fait pas. Mais on ne peut pas non plus ouvrir les frontières. Et donc, on a cette espèce d'entre-deux qui consiste à dire, c'est ma thèse personnelle, le centre fermé, en fait, ça sert plutôt pour nous. Ça sert pour l'un de la population intérieure. Ça sert à nous dire, il y a encore une frontière, les gars. Si, je vous assure, d'ailleurs, il y a encore des gens qui sont détenus parce qu'ils ne sont pas supposés être là, ils ont franchi la frontière régulièrement, ils doivent rentrer chez eux. Mais ça ne sert quelque part qu'à ça, parce qu'il faudrait multiplier les centres fermés par 10 et se transformer, comme je vous l'ai dit, en un état policier qui vient chercher les gens chez eux et qui ferait des raves dans les écoles. Non, il y a plutôt une sorte de consensus non dit qui est on ne vous traquera pas, mais si on vous chope à 3h du matin sur les marches de la bourse, tant pis pour vous. Voilà, une espèce de message, genre tenez-vous à carreau, puisque de toute façon on ne peut pas renvoyer tout le monde. Et que, c'est impossible, mais on ne peut pas non plus ne rien faire. Se disent-ils, et envoyer le message que les frontières sont complètement ouvertes. Alors, on a des centres fermés et une politique d'éloignement, à mon avis, assez volontairement inefficace. Voilà, pour conclure, sans vouloir trop en faire, parce que je crois que j'ai déjà bien parlé. Ces centres fermés ont tout de même la conséquence d'assimiler l'étranger de manière générale, est-il sans papier ou non, à un délinquant, ce n'est pas anodin, parce que vous avez remarqué que c'est un dossier extrêmement complexe, mais la rétivité, voire l'agressivité politique sur ce sujet est le reflet de ce qu'il pense être, de ce que ce monde politique pense être les peurs de son opinion publique qui vote pour ces hommes et ces femmes politiques. Et donc la question de la représentation de l'étranger, du rôle qu'on lui donne, est-ce qu'on le valorise ou pas, est-ce qu'on valorise des bons exemples ou pas, est importante. Et donc, voilà, quand même des réussites d'étrangers un peu plus intéressantes. Quand vous savez que Steve Jobs, par exemple, est un enfant de réfugié syrien, tout le monde ne sait pas ça. Voilà, essayons de mesurer la part de cet enfant de réfugié syrien dans le PIB actuel des États-Unis. Ça peut calmer, à mon avis, un certain nombre de choses. L'État est donc dans son rôle quand il l'est dans la sédentarisation, parce que c'est son métier, mais il peut pas... Il doit donner une priorité aux droits humains, des gens qui viennent le voir, qui viennent jusqu'ici. Et donc, de manière claire, si on veut sortir par le haut de la crise de l'asile, mais de la question migratoire de manière générale, il me paraît clair qu'il faut essayer de réconcilier ces deux pôles, que sont les structures collectives, qu'elles soient État, Union européenne, et les individus porteurs de droits à respecter. Parce que de toute façon, les territoires, les pays, les nations, les religions ne se transmettent et ne se perpétuent que par des individus. Et donc, et je terminerai par là, ça nous mène sans doute vers deux chantiers immenses à distinguer, à mon avis. Il faut distinguer le chantier de l'asile et le chantier de la migration, puisqu'il ne repose pas sur les mêmes bases. Et dans les deux cas, il faut une forme d'unification européenne enfin complète. Au niveau de l'asile, sans doute arriver d'une manière ou d'une autre à dépasser les accords dits de Dublin. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Dublin, c'est le nom d'un accord qui a été signé, vous savez que c'est souvent comme ça en Europe, et qui organise la politique d'asile et d'immigration. Le principal axe de ces accords étant que vous êtes supposé introduire votre demande d'asile dans le premier pays européen dans lequel vous mettez les pieds, c'est-à-dire techniquement, en principe, l'Italie, la Grèce ou la Hongrie. C'est pas un hasard c'est une des raisons pour lesquelles, évidemment, ces trois pays sont souvent sur le plan d'actualité sur la question. Ça se fissure dans tous les coins. Déjà, on ne peut plus renvoyer personne en Grèce suite à un arrêt condamnant la Grèce et la Belgique, d'ailleurs, un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui interdit de renvoyer vers la Grèce parce que les conditions jusqu'ici n'étaient pas, ne feraient pas assez de garanties par rapport au respect des droits humains. Et puis surtout, le système éclate dans tous les sens. La plupart des pays dits de transit, que sont notamment les trois pays que je viens de citer, ne sont pas les pays plébiscités par les demandeurs d'asile et par les migrants en général. Ils cherchent plutôt à rejoindre l'Allemagne, l'Angleterre, les Pays-Bas, la Suède, ce qui montre que le job n'a été fait qu'en partie, puisque toute politique européenne en matière d'asile, qu'elle s'axe sur des principes comme ceux de Dublin ou comme d'autres à l'avenir, par exemple sur un mécanisme de répartition qui est en train de naître visiblement, ça peut marcher que si vous avez votre chance raisonnable d'avoir votre demande d'asile traitée de manière équitable et équivalente dans la plupart des pays d'Union, et ce n'est pas du tout le cas. Dans certains pays, votre demande va être traitée en quelques mois, dans d'autres, ça prendra des plombes. Dans certains pays, selon l'endroit d'où vous venez, vous avez de bonnes chances d'être reconnu réfugié, dans l'autre, pas du tout. Et donc, puisque toutes les questions, vous l'avez compris, de balance entre l'injustice, l'arbitraire et une forme de justice, si vous devez expliquer à un Syrien qui n'a pas le choix et qui, lui, doit tenter sa chance en Slovaquie et son voisin ira en Allemagne, il va mal le vivre parce qu'il a beaucoup moins de chances d'obtenir son statut légal en Slovaquie qu'en Allemagne. Donc c'est pas évident, il faut aussi travailler sur cette dimension-là. Et tant qu'on y est, puisqu'on fait des hotspots en Grèce et en Italie, si on veut vraiment couper l'herbe sous le pied des passeurs qui font donc leur beurre sur la misère humaine, il serait peut-être une solution de fournir à un peu plus de gens, et même la Belgique peut le faire avec ce qu'on appelle les visas humanitaires, à un peu plus de gens la possibilité d'introduire une demande d'asile depuis l'extérieur. Sur les 4 millions de Syriens qui sont en dehors de leur pays aujourd'hui, vous en avez 2 millions installés dans des camps en Turquie, 1,2 million au Liban. Pour le Liban, ça fait juste quand même le quart de sa population, puisque c'est un pays de 4 millions d'habitants. C'est comme si nous, on hébergeait 2,5 millions personnes. Je vous rappelle qu'on est à 20 000 pour l'année 2015. Au Liban, ils donnent cours aux Libanais, aux petits Libanais le matin et aux petits Syriens l'après-midi. Mais donc, vous avez également beaucoup de gens en Jordanie, en Égypte. Vous avez donc partie de ces gens qui sont dans des camps. C'est d'ailleurs parce qu'ils ont de moins en moins de perspectives de revenir en Syrie qu'une partie de ces gens arrivent maintenant. On pourrait imaginer, dans un monde idéal, qu'il soit beaucoup plus facile d'introduire une demande depuis l'extérieur sans avoir à payer des passeurs pour arriver sur une île grecque et de voir sa demande répartie dans une série de pays européens. Bien sûr, ce n'est pas simple parce que ces gens-là veulent aussi rejoindre des gens qu'ils connaissent. Donc c'est un dossier d'une complexité extrême. Mais là, espérons que les faits nous confrontent de plus en plus à une possibilité de le résoudre par le haut. Et enfin, à côté de ça, ça ne nous dispense pas d'envisager une politique migratoire par elle-même, axée, à mon avis, prioritairement sur le travail, c'est-à-dire proposer un canal migratoire par lequel non seulement les gens qui ont des super diplômes, mais également les autres, auraient au moins une chance légitime et juste de pouvoir venir ici, exercer un talent, venir pour des motifs pour lesquels ils ont en grande partie envie d'arriver ici. Cette voie n'existe pas vraiment, elle est insuffisamment développée. Il y aurait pourtant des tas d'arguments, notamment de nature économique ou démographique. Il y a une étude de l'OCDE qui établit que, grosso modo, l'apport des migrants à une société est supérieur économiquement, simplement économiquement, à ce qu'il coûte. Mais il faut reconnaître que sur ce sujet-là, il n'y a pas d'unanimité, parce que, là encore, vous tombez dans la question du monde du travail, qu'est-ce qu'on appelle le secteur de l'emploi, est-ce qu'on le voit de manière dynamique, ou, parce que quand on pense que les migrants, de manière générale, les étrangers, vont coûter, c'est parce qu'on les imagine prestataires prestataires d'allocations sociales sous une forme ou une autre, sans contribuer. C'est-à-dire que c'est un raisonnement qui se base sur un marché du travail relativement statique, où forcément, comme des jeux de chaises musicales, si vous prenez une place, vous la volez à quelqu'un. Voilà, les étrangers vont vous voler votre travail. Moi, j'ai jamais vu personne se faire voler son travail par quelqu'un qui vient d'arriver, qui parle pas la langue et qui a échappé à des bombardements. Mais enfin, voilà, c'est... Bon. Donc techniquement, matériellement, ça ne repose, ce sont des craintes irraisonnées, parce que la personne qui arrive, elle arrive aussi avec sa force de travail, sa force de contribution, et elle entre dans le gâteau économique également comme contributrice, comme payeuse d'impôts. Et là, sans doute, est-ce un sujet, puisque je sens qu'il clive de plus en plus, qui mériterait beaucoup plus de recherche, à savoir, on devrait d'ailleurs en parler, mon cher Andréa, sur non seulement l'avenir économique des demandeurs d'asile, dans ce compris ceux qui sont arrivés après la clôture de carrières, mais également des autres formes de migration. Il n'y a pas que les gens qui arrivent pour des raisons économiques, qui sont tout de même quelques-uns, qui contribuent. Quelqu'un qui arrive par regroupement familial a aussi vocation à travailler. Voilà, mesdames, messieurs, ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous aura intéressé. L'idée principale étant de dire, pour revenir à mon histoire d'enfant et de balançoire et de cet enfant qui vole la balançoire du premier et qui dit à l'autre « j'étais là le premier », qu'à mon avis, comme adulte, nous avons tous les moyens de trouver un petit peu mieux. Je vous remercie.
Vous venez d'écouter la conférence « Peut-on ne pas accueillir toute la misère du monde ?» Pour cette première tribune de l'année académique 2015-2016, l'ULB recevait François de Smet, docteur en philosophie et directeur du MIRIA, le Centre fédéral Migration.